Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Requigny et Samuel Bernard, mais aussi Clémence Alezard, Anne-Sophie Pierry, réalisée par Jean-Christophe Francis et mise en onde ce matin par Jacques Hubert. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale. On va s'intéresser aux relations franco-russes avec nos partenaires du monde. Comme chaque vendredi, c'est aujourd'hui Christophe Ayad qui nous accompagne. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes chef du service international au monde. Alors qu'Emmanuel Macron a rencontré hier pour la première fois son homologue américain à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN et qu'il se rend désormais au G7 organisé en Sicile, ce sera bientôt au tour de Vladimir Poutine de rencontrer le nouveau chef de l'État. En effet, lundi, le chef du Kremlin est attendu à Paris, ou plus exactement à Versailles, où il inaugurera l'exposition sur l'empereur Pierre le Grand à l'occasion du 300e anniversaire de sa visite en France. Il faudra donc aller puiser très profondément dans les racines de l'histoire des relations franco-russes pour convaincre les différents partis de dépasser leurs divergences, et elles sont nombreuses. Alors que peut-on attendre de cette visite? Sera-t-elle de nature à améliorer les relations entre la France et la Russie malgré les dossiers qui fâchent? Le conflit syrien, l'annexion de la Crimée, faut-il s'attendre à une nouvelle diplomatie française à l'égard de Moscou? Pour évoquer ces questions dans quelques instants, nous retrouverons, mais ils sont déjà avec nous en studio, Marie-Maëlle Dras, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, chercheuse au CNRS et au CERI Sciences Po. À vos côtés, Antoine Arjakovski, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes historien, spécialiste de l'Église orthodoxe russe, un spécialiste aussi des relations entre la Russie et l'Ukraine. On vous retrouvera dans quelques instants. D'abord, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'Association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Turquie.
C'est atroce, vraiment. Mais je n'avais pas le choix. Je me sens mal d'avoir fait ça, et ça n'aurait jamais dû se passer. Je suis tellement en colère. Le problème, c'est que personne ne fait attention à nous. Il y a plein de femmes syriennes qui se sont retrouvées seules, sans personne pour subvenir à leurs besoins. Avant les événements en Syrie, nous vivions très bien. Il y avait le salaire de mon mari et le mien aussi. Et puis j'aimais bien mon travail. On avait vraiment de bons revenus qui nous permettaient de vivre, mon mari, moi, mes enfants, et de façon très convenable. Je n'ai pas eu le choix. C'est horrible, c'est une décision très difficile, mais je ne pouvais rien faire d'autre.
Bonjour Constance de Bonaventure.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste. On vous reçoit pour ce documentaire dont on vient d'entendre un extrait qui a été co-réalisé avec Ahmet Dib, Turquie, trafic de reins, qui sera diffusé demain sur Arte. Vous êtes parti donc en Turquie une quinzaine de jours. Vous y avez donc réalisé ce documentaire sur les déplacés syriens réfugiés en Turquie. Ils sont près de 3 millions à avoir quitté leur pays pour gagner cette Turquie voisine. Ils vivent dans des conditions souvent extrêmement difficiles et certains d'entre eux, on l'entendait, décident de vendre leurs organes. Votre projet de documentaire visait justement à comprendre comment s'organise ce trafic. Ce documentaire, il s'ouvre sur cette personne qu'on vient d'entendre, Oum Omar, une femme d'une quarantaine d'années, ancienne fleuriste, mère de 4 enfants. Elle fait partie justement de ces personnes qui ont décidé de vendre un rein en l'occurrence. Comment cette femme en est-elle venue à prendre cette décision ?
Eh bien, elle l'explique un petit peu dans le documentaire, mais évidemment, c'est très court par rapport à ce qu'elle a vécu. Elle avait une situation en Syrie, elle était fleuriste, son mari travaillait, il était fonctionnaire, et un bombardement du régime a détruit leur maison et leur affaire, en l'occurrence sa boutique de fleurs à elle. Et elle a 4 enfants, cette femme. Elle s'est retrouvée du jour au lendemain veuve, sans emploi, sans ressources. Et puis, tout simplement, au fil des années, aucun moyen de subvenir à ses besoins. Et alors, ça, de mémoire, on le raconte pas dans le documentaire, parce que c'est que 26 minutes, donc on n'a pas forcément le temps de tout raconter. Mais elle nous explique justement comment elle a eu cette idée, parce que c'est une question que je me posais. C'est un soir, elle discutait avec des amis, et ils ont commencé à lui parler de ça, en lui disant, écoute, il y a sur les réseaux sociaux notamment, des Syriens, des Saoudiens, des Qataris, bon, c'est les nationalités qui reviennent, hein. C'est pour ça que je les cite, qui sont en demande de reins, qui n'arrivent pas à trouver de reins. Voilà comment elle a eu cette idée-là. Alors là, en l'occurrence, c'était un groupe WhatsApp, un groupe de Syriens à l'étranger. Elle s'est adressée à ce groupe-là, de Syriens de l'étranger qui cherchaient à se procurer des reins. Elle n'est pas tombée dans une espèce de trafic. C'était une démarche volontaire, comme beaucoup. On va peut-être en parler par la suite.
On va parler.
C'était une démarche volontaire de sa part. Il se trouve que c'est des questions d'opportunité aussi. Au moment où elle a voulu vendre, elle s'est dit « tiens, pourquoi pas ?» Donc après, elle nous explique qu'elle a réfléchi longuement à ça. Est-ce que je le fais ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que, voilà, est-ce que j'ai le courage aussi de passer à l'acte ?
Ce qui l'a convaincue, c'est aussi ce qu'elle voulait faire de l'argent, c'est-à-dire envoyer son fils en Allemagne.
Exactement. Ça, c'est ce qui l'a convaincue. Mais aussi, ce qui l'a convaincue, c'est le fait qu'elle ait en face d'elle un Syrien. Pour le coup, elle l'a vendu à un Syrien. C'est pour ça que je souligne aussi que c'est des questions d'opportunité. Mmh. C'est qu'elle s'est retrouvée, au moment où elle a pensé à ça, elle s'est retrouvée avec en face d'elle un Syrien qui a été, enfin c'est ce qu'elle nous raconte, hein, qui a été plutôt bienveillant à son égard, qui a ensuite pris des nouvelles, etc. Donc ça s'est pas fait salement, ça s'est pas fait dans une clinique au fin fond de la Turquie.
C'est une question d'opportunité et en même temps on va y venir, hein, sur justement les cliniques et les hôpitaux, mais c'est une question d'opportunité évidemment, mais visiblement l'opportunité elle est relativement répandue et par ailleurs les réfugiés syriens savent très bien qu'il y a cette possibilité. Il y a par exemple une famille que vous rencontrez qui est un couple de réfugiés syriens dont le mari Ahmad est un ancien combattant qui est installé dans un campement de fortune, pas très loin d'ailleurs de la frontière syrienne, dont l'une des filles est gravement malade. Alors lui, il vous explique qu'il a trouvé un moyen de se faire un petit peu d'argent en détournant, en revendant l'aide alimentaire qu'il reçoit. Et il vous dit, lui, qu'il comprend parfaitement qu'on puisse en venir à Vanzerin et peut-être même lui le fera un jour.
C'est ça qui est vraiment alarmant, je trouve. C'est on n'est pas capable, nous, enfin en tout cas moi, et j'ai pas eu les moyens de savoir à quel point ce trafic est répandu ou non. On n'a pas de chiffres. Voilà, c'est quelque chose de, on peut pas s'appuyer sur des études qui ont été faites dessus. En revanche, ce qui est alarmant, c'est effectivement le nombre de gens qui y pensent et à quel point c'est dans l'esprit des gens. C'est quelque chose maintenant. Alors, encore une fois, je ne dis pas que tout le monde le fait et que tout le monde y pense sérieusement, mais c'est quelque chose qui est connu de la communauté syrienne. C'est les gens ont entendu parler, les gens autour d'eux connaissent quelqu'un qui peut le faire, qui l'a fait, quelqu'un qui est entremetteur. Donc c'est ça qui est assez alarmant, effectivement.
Constance de Bonaventure, comment concrètement s'organise ce trafic, les acheteurs, les vendeurs, comment est-ce que tout ça se met en contact, comment tout ça s'organise?
Alors, il y a un point de rupture, hein, dans ce trafic, c'est l'année 2015. En fait, en 2015, les autorités turques ont arrêté un trafiquant d'origine ukrainienne et israélienne, il a double nationalité.
Boris Wolfman.
Donc il est arrêté en 2015. En fait, en arrêtant ce trafiquant, les Turcs ont démantelé un réseau gigantesque. Donc avant 2015, parce que nous dans le reportage, on a rencontré évidemment des gens qui ont vendu leurs reins avant 2015. Mmh. Avant 2015, c'était clairement organisé. Vous aviez des acheteurs qui venaient de l'étranger, à qui on procurait des faux papiers. Tout ça, c'était assez facile. Enfin, la personne qui voulait acheter un rein contactait un entremetteur ou un trafiquant sur place, et tout était organisé. Donc, il y avait plus de facilité pour venir acheter ou pour vendre son rein.
Lui, c'est un citoyen israélien d'origine ukrainienne. Boris Wolfman.
Citoyen israélien d'origine ukrainienne, exactement. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, un des avocats qui suit de près ce dossier qu'on a dans le reportage, dit lui que il y a des hauts et des bas, que effectivement, si un Boris Wolfman s'en va, un autre peut revenir 6 mois plus tard. Donc peut-être qu'en ce moment, c'est en train les réseaux sont en train de se reformer, mais en tout cas, nous, on n'a pas mis le doigt sur un réseau en Turquie. C'est pas, et d'ailleurs, le sujet ne traite pas forcément de ça. Le sujet traite plus de ces démarches volontaires, de ces gens qui mettent eux-mêmes leurs reins en vente sur les réseaux sociaux et qui ensuite, par opportunité, trouvent des acheteurs en Turquie ou à l'étranger.
Et en particulier, ils les trouvent sur les réseaux sociaux, ils les trouvent sur Internet, parce qu'il y a des pages qui sont dédiées justement à ça.
C'est ça qui est surprenant, c'est que vous allez sur Facebook, il y a des pages pour vendre son rein, des pages en arabe, des pages qui sont spécifiquement dédiées aux Syriens qui vivent en Turquie. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Et si vous avez vu le reportage, vous voyez à quel point on rentre très facilement en contact avec un vendeur, mais aussi avec des acheteurs. Et des trafiquants.
Ah oui, je l'ai vu, et on se rend compte combien c'est facile. Vous avez rencontré par exemple ce jeune homme de 21 ans, Wael, qui vit à Istanbul, qui a posté une annonce sur Internet en février, et très très rapidement, dans les premiers jours, dans les premières semaines, il a été contacté par plusieurs personnes.
Effectivement, il a été contacté par plusieurs personnes. Après,
un Libanais, une Ukrainienne, je crois.
Un Libanais, une Ukrainienne. Alors, et c'est ça pour finir de répondre à votre question sur le trafic. Aujourd'hui, c'est très compliqué de vendre son rein en Turquie, parce que je rappelle quand même que c'est illégal, hein, c'est passible de peine de prison, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que les personnes qui souhaitent acheter des reins, que ce soit des acheteurs ou des trafiquants, hein, on ne sait jamais trop qui se cache derrière les acheteurs, eh bien, proposent aux vendeurs syriens quelqu'un qui se trouve en Turquie, mais qui pourrait se trouver aussi au Liban ou en Égypte, de voyager et de faire l'opération. Alors ça, encore une fois, c'est à la base sur la base des témoignages qu'on a recueillis, hein, donc je ne veux pas dresser de généralité, mais les opérations qui ont lieu pour la plupart du temps en Égypte et au Liban.
Oui, enfin, ceci dit, on ne les prévient pas toujours, parce que le cas de l'homme que vous rencontrez, on lui explique qu'on va lui donner un travail, on va lui trouver un travail en Égypte, il fait ce voyage, il s'y rend, et une fois sur place, on lui dit non, en fait, il n'y a pas de travail, mais en revanche, tu peux donner ton rein. Alors, on ne le force pas au sens... Il accepte, mais il y a quand même une forme de pression qui est évidente.
Exactement, et c'est là où on tombe vraiment, pour le coup, dans le trafic pur et simple. C'est du vol, enfin, je pense qu'on peut qualifier ça de vol d'organes. C'est qu'on le... Mohamed, il a été forcé à vendre son rein. C'était ça où il restait en Égypte et ne pouvait plus rentrer en Turquie, sauf s'il vendait son rein justement pour financer son voyage.
J'entends bien que 2015 constitue une rupture et qu'il y a un avant et un après et que désormais c'est plus difficile. Mais aujourd'hui, ça reste possible. Vous êtes rendu dans un hôpital, vous avez rencontré un certain nombre de responsables d'hôpitaux. Concrètement, comment se fait-il que ça soit possible? On vérifie pas les identités des gens. C'est interdit de faire ça.
Alors, on les vérifie et justement le médecin qu'on a rencontré qui s'occupe de la patientèle étrangère dans un grand hôpital, un hôpital qui est pas du tout mouillé dans le trafic, hein, attention, lui nous parle longuement du tourisme médical en nous disant à quel point, en nous expliquant à quel point la Turquie, Istanbul notamment, c'est devenu un hub pour tout ce qui est tourisme médical. Donc on vient se faire soigner en Turquie de partout maintenant, y compris d'Europe de l'Est.
Oui, pas forcément pour se faire transplanter.
Non, bien entendu. Et il nous explique que dans ce contexte, ils sont obligés, et notamment, je précise, la Turquie, c'est une place importante pour tout ce qui est transplantation d'organes. Ce que nous explique ce médecin, et ce qu'on a pu vérifier, hein, c'est ce que font les autorités turques, ils sont obligés pour une transplantation de vérifier auprès des ambassades les identités du donneur et du receveur, pour être sûr que ces personnes soient de la même famille. Donc ça, ils le font, et ils le font de manière assez réglo, si je puis dire. Mais ce que nous explique le médecin, et ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même un flou administratif autour des Syriens.
C'est-à-dire
que c'est très facile en Turquie de se faire une fausse carte de réfugié syrien. Et deuxièmement, c'est impossible pour... là, on parle des hôpitaux ou d'une opération de transplantation. C'est impossible de vérifier l'identité des Syriens auprès de l'ambassade syrienne en Turquie, puisqu'il n'y a pas de relation entre la Turquie et la Syrie. Donc, ils n'ont pas... Ce qu'ils font pour les Saoudiens, les Qataris ou même des Ukrainiens, etc., c'est-à-dire bien vérifier les identités et la filiation ou les liens familiaux qu'il peut y avoir entre les deux personnes, ils ne peuvent pas le faire pour les Syriens. C'est impossible.
Alors, il peut y avoir ces vérifications, mais il y a aussi des façons de faire beaucoup plus brutales. Et vous expliquez que parfois, les trafiquants vont jusqu'à carrément voler les organes directement sur les réfugiés syriens, et notamment sur les enfants.
Exactement. Alors ça, c'est un cas qu'on a eu dans le sud de la Turquie. Une petite fille qui a été violée. Puis ils lui ont volé son rein, donc elle a été recueillie par une ONG dont on a rencontré la fondatrice à Rerani, donc c'est à la frontière. Et on a vérifié aussi auprès du médecin turc, hein, qui a ausculté cette petite fille, effectivement, ils lui ont volé son rein. Donc ça, c'est des cas qui arrivent, ça c'est l'œuvre de mafia. Il y a toujours des...
Et là, que font les autorités ?
Que font les autorités ? Les autorités ont arrêté les personnes qui ont... Les autorités réagissent, hein, ne sont pas complètement insensibles à ça, parce que c'est dans l'intérêt de personne, évidemment, que la Turquie soit une plaque tournante du trafic d'organes. Enfin, c'est certainement pas dans leur intérêt à eux. Donc oui, il y a une police qui est là pour lutter justement contre tous ces trafics. La police est active et les autorités réagissent, en effet.
Sauf qu'évidemment, le problème, c'est que tant qu'il y a des gens qui sont prêts à vendre leurs organes, qui sont dans des situations extrêmement précaires, on aura toujours des personnes prêtes à les récupérer pour les revendre.
Exactement, et c'est ce qu'expliquait l'une des personnes qu'on a interviewé dans le reportage, l'avocat, c'est tant qu'il y aura des gens pour vendre, il y aura toujours des acheteurs. Bon, ça marche dans les deux sens, tant qu'il y aura des acheteurs, il y aura des donneurs. Mais là, c'est ce qui m'a le plus frappé en fait lors de ce reportage, c'est de voir le nombre de gens qui ont mis en vente leurs organes, juste parce qu'ils n'ont aucune autre possibilité et qu'ils sont dans une impasse totale.
Réaction peut-être ici avec nos invités en plateau, Antoine Arjakovski, Marie Mindras, Christophe Ayad. Christophe, peut-être vous connaissez bien la situation évidemment des réfugiés syriens en Turquie.
Oui, bon, il se trouve que je pense que leur condition est en train de se dégrader, notamment à cause de la dégradation de l'économie turque, et qu'ils sont chassés des emplois qu'ils avaient occupés des emplois sous-payés qu'ils avaient occupés, mais qu'on leur avait laissé occuper. Maintenant, on les fait partir donc pour les remplacer par des Turcs. Donc, effectivement, il y a peut-être eu un tournant en 2015, mais moi, j'ai le sentiment que en 2016-17, leur situation économique s'est dégradée. Et effectivement, on a essayé de s'intéresser à savoir au monde, notamment s'il y avait trafic d'organes en Europe, non. Mais en Turquie, oui. On sait que quelque chose se joue entre la Turquie, le Liban et l'Égypte. L'Égypte est traditionnelle aussi. C'est un pays où il y a du trafic d'organes déjà de la population locale. C'est connu. Mais cette masse de centaines de milliers, de millions de réfugiés syriens qui voient leurs ressources s'épuiser et qui sont de moins en moins bienvenus en Turquie, forme évidemment une proie très facile pour tous les réseaux et toutes les mafias possibles.
Marie Mandras.
Ce qu'on peut dire pour ouvrir aussi un petit peu sur notre sujet Russie, c'est que l'afflux de réfugiés de Syrie et du Moyen-Orient, mais notamment de Syrie, a encore augmenté à partir de l'automne 2015, quand Vladimir Poutine a décidé d'intervenir plus directement dans la guerre en Syrie. C'est-à-dire que les Russes ont depuis très longtemps soutenu le régime des Assad, mais à partir donc d'octobre 2015, l'armée russe, à côté donc de l'armée de Bachar el-Assad, a participé au bombardement et directement impliqué dans cette situation. Et pour nous, de notre point de vue, il y a une responsabilité.
Sans compter que c'est un moment décisif, parce que c'est un moment où les observateurs disent que le régime va très mal, qu'il est sur le point de s'effondrer, et l'aviation russe vient effectivement à la
rescousse. Il y a une responsabilité de Moscou dans l'aggravation de la situation en Syrie et de la situation des réfugiés.
On reparlera évidemment de la situation syrienne. Antoine Arjakovski, un mot ?
Non, je partage ce que dit Marie. J'insisterai juste sur le fait que la Turquie fait partie du Conseil de l'Europe et que ce qui unit tous les pays membres du Conseil de l'Europe, c'est justement le respect du droit et le respect des personnes. Donc il y a peut-être une moyen de faire pression sur le gouvernement turc, non seulement sur les journalistes qui sont arrêtés, comme c'est le cas en ce moment, mais aussi sur ce genre de trafic qui sont pas acceptables du point de vue des normes juridiques du Conseil de l'Europe.
La Russie est toujours membre du Conseil de l'Europe.
Vous faisiez référence évidemment à Mathias Depardon qui est toujours retenu en Turquie. Merci beaucoup en tout cas Constance de Bonaventure d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc votre documentaire que vous avez co-réalisé avec Ahmed Dib, Turquie, Trafic de Rhin. Ça sera demain sur Arte, 18h35, c'est ça ?
Oui,
je crois que c'est ça.
Je crois.
Merci beaucoup. C'est donc avec cette flûtiste syrienne, Naysam Jalal, qu'on quitte donc la Syrie, la Turquie pour se diriger vers la France et la Russie et s'intéresser à ces relations franco-russes alors que Vladimir Poutine sera reçu lundi à Versailles pour une première rencontre avec Emmanuel Macron. Quelle diplomatie française à l'égard du Kremlin ? C'est notre question ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Lundi, donc, le président français recevra le président russe pour une première rencontre. Elle n'aura pas lieu à l'Élysée, mais à Versailles. Poutine se rendra au Grand Trianon pour inaugurer avec son homologue l'exposition consacrée à Pierre le Grand. Que peut-on attendre de ce rendez-vous ? Que nous laisse-t-il entrevoir de la manière dont Emmanuel Macron
pourrait gérer ses relations avec Moscou dans les 5 prochaines années? Est-ce qu'il faut attendre des évolutions sur les dossiers, notamment, qui ont fait l'objet de grandes discordes ces derniers mois? On a évoqué la Syrie, on va en reparler, l'Ukraine, bien sûr. Nos invités, Marie Mindras, donc politologue, chercheuse au CNRS et au CERI Sciences Po, auteur notamment de La Russie, l'envers du pouvoir, c'était il y a une dizaine d'années maintenant chez Odile Jacob, mais aussi, peut-être j'indique pour les pour nos auditeurs, que vous avez préfacé le rapport Nemtsov, qui était évidemment cet opposant russe assassiné, Poutine et la guerre, qui est paru chez Actes Sud. À vos côtés, Antoine Arjakovski, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes donc historien, spécialiste, je le disais, de l'Église orthodoxe russe. Et puis, vous venez de publier, vous, c'est dans ces jours-là qui viennent, je crois que c'est très bientôt, l'Occident-Russie, comment sortir du conflit, qui est paru chez Balan. Et évidemment, nous sommes avec... aujourd'hui, Christophe Ayad, du Monde, notre partenaire, tous les vendredis. Alors, quand il était candidat, Emmanuel Macron, on s'en souvient, n'a pas vraiment caché sa méfiance à l'égard de la Russie, souvenez-vous.
Quant à M. Poutine, il est autour de la table sur plusieurs sujets de discussion. Le conflit ukrainien, il faut désescalader ce conflit, il faut progressivement le normaliser, mais il faut qu'il respecte le processus en cours. Et le conflit en Syrie, où là... il doit être autour de la table, il est un des éléments de la réponse, mais en aucun cas je ne serai soumis au diktat de M. Poutine. Et donc, sur le sujet syrien, je veux en la matière que notre priorité soit la lutte contre le djihadisme terroriste qui sévit dans la région, et je veux, au-delà de tout, qu'on arrive à trouver une solution politique négociée en mettant toutes les parties prenantes autour de la table. Donc ce sera un partenaire de travail sur quelques problématiques régionales avec lequel je discuterai, mais en ayant conscience que nous n'avons, sur beaucoup de sujets, pas les mêmes valeurs et les mêmes priorités.
Pas les mêmes valeurs, pas les mêmes priorités. Il faut rappeler également les accusations d'ingérence à l'égard de Moscou durant la campagne présidentielle. Le mouvement En Marche, on s'en souvient, avait pointé du doigt le rôle de la Russie dans les cyberattaques. Il va y avoir donc une première rencontre qui se préfaillait de lundi, dans un lieu extrêmement prestigieux. On sent qu'il y a peut-être le désir chez Emmanuel Macron de réserver, disons, un régime un peu spécifique à Poutine, en cherchant peut-être à le flatter sans doute, mais aussi peut-être en l'accueillant dans un lieu chargé d'histoire, porteur d'une certaine grandeur de la France. Bien sûr, c'est la France monarchique, mais quand même, Christophe Ayad.
Oui, non, c'est assez finement joué, parce que d'abord, cette visite, elle intervient dans la foulée d'une semaine où Emmanuel Macron aura rencontré les dirigeants de l'Union européenne, les dirigeants du G7, Donald Trump et
Erdogan.
Erdogan. Et là, à la fin, on termine avec Poutine. La deuxième chose, c'est qu'il saute sur une occasion culturelle. Pierre le Grand, alors ça flatte les Russes, ça flatte Poutine, qui était très frustré de ne pas avoir pu venir à Paris lors de l'inauguration de l'église orthodoxe de russe de Paris, et qui était extrêmement en colère contre François Hollande de cette occasion ratée. Donc il lui fait un geste, mais il l'invite à Versailles. Et à Versailles, c'est le lieu de la grandeur française et de la monarchie française. Il y a quelque chose d'un peu écrasant aussi. Donc symboliquement, je trouve ça bien joué. Après, ça dire qu'on va attendre une sorte de renouveau, moi je n'y crois pas, parce que je pense que Vladimir Poutine...
Au moins une normalisation, c'est ce qu'on peut espérer.
Vladimir Poutine a récolté le candidat le plus anti-russe de tous les candidats à la présidentielle. Il a récolté celui qui s'est plaint de cyberattaques, et à juste titre, sur son mouvement politique, et ça a donné lieu quand même au fameux Macron Leaks, exactement 48 heures, même pas 36 heures avant le second tour. Il avait reçu Marine Le Pen pendant la campagne, marquant quand même une forme de préférence. Alors il dit que je n'ai pas, Poutine dit que je n'avais pas de préférence, mais enfin la recevoir, c'était une façon de lui donner une ampleur qu'elle n'avait pas. Donc non, on part de très 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 loin, mais on y met les formes.
Marie Mindras, Antoine Arjakovski, sur donc cette réception à Versailles. C'est pas la première fois qu'un président français, évidemment, accueille un chef d'État à Versailles. Ça se faisait beaucoup d'ailleurs. C'est De Gaulle qui avait relancé un peu cet usage. D'autres l'ont suivi. Mais c'est vrai que depuis 20-25 ans, ça se faisait moins. Que vous inspire justement ce geste de Macron qui le reçoit à Versailles, et peut-être en particulier pour inaugurer, bien sûr, cette exposition autour de Pierre le Grand, de la visite de Pierre le Grand en France il y a 3 siècles maintenant. Marie Mindras.
L'occasion fait de l'larron. Je crois qu'il n'y avait pas de calcul de le faire venir à Versailles ou en Normandie ou à Paris. Le président de la République veut dans l'entre présidentielle et législative se construire sa stature d'homme d'État et pour une personne qui n'avait pas d'expérience internationale. Donc c'était l'occasion et je pense que il a invité Vladimir Poutine après tout un travail mené par l'ambassade de Russie en France, par tous les réseaux en France qui voudraient faire repartir une relation franco-russe. Donc pour le moment, il faut y voir une occasion. Et je voudrais rebondir tout de suite sur ce qu'a dit Christophe Ayad. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je ne vois pas comment il peut y avoir une normalisation. Parce que nous avons transformé, tous les pays occidentaux ont transformé leurs relations avec la Russie après l'annexion de la Crimée, il y a plus de 3 ans. Et Vladimir Poutine dit et répète qu'il ne bougera pas du tout dans sa position sur la Crimée ou sur l'occupation militaire du Donbass. Donc, tant que Poutine ne bouge pas, je pense que Emmanuel Macron ne trouvera pas d'espace de négociation avec Vladimir Poutine.
On va revenir évidemment sur cette question. Antoine Arshakovsky, sur cette réception donc à Versailles, à l'occasion de cette exposition qui célèbre le 300e anniversaire de la visite de Pierre Legrand en France.
Moi, je crois effectivement que tout ce que vient d'être dit, je le partage. Je pense quand même que les Russes sont les plus demandeurs. Parce
Absolument.
Que c'est vrai qu'ils sont... Ils ont été mis par terre par cette élection. Hein. Ils soutenaient soit Fillon, soit des émissaires de Sarkozy qui ont été reçus, soit effectivement Marine Le Pen qui a été reçue carrément au Kremlin. Et puis voilà, Emmanuel Macron. Je crois qu'il faut comprendre aussi que Vladimir Poutine est un judoka. Il agit rapidement. Il veut agir rapidement. C'est ce qu'il a fait, du reste, lorsqu'il y a eu la révolution de la dignité en Ukraine au mois de février, quand il a vu que Yatsenyuk prenait le pouvoir, que le Yanukovych devait fuir l'Ukraine. Il a attaqué tout de suite le 20 février, le lendemain, la Crimée. Ça veut dire, il a profité du fait que l'armée ukrainienne n'était pas prête. Et là, il veut profiter du fait que la diplomatie française change d'équipe. Le cabinet n'est pas encore formé. Bon, on sait que Philippe Étienne est le conseiller diplomatique de Monsieur Macron, et donc c'est quelqu'un d'expérience, qui a été ambassadeur non seulement en Allemagne, mais aussi en Bruxelles, qui a été en poste à Moscou. Mais il y a vraiment cette idée, préparée par l'ambassade, de travailler sur l'amitié franco-russe très ancienne, d'attaquer tout de suite, et de se rappeler que Pierre le Grand, quand il est venu en 1717 à Paris, eh bien Louis XV, le roi qu'il avait en face de lui, il avait 7 ans. Il était tout jeune, il était tout petit, et alors la grande surprise, on était très choqués à Versailles, il n'a pas du tout respecté l'étiquette, il l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé, ça ne se faisait pas du tout.
On sait que ça pourrait arriver à Emmanuel Macron.
Alors voilà, il veut le regarder dans les yeux, il veut lui montrer que son âme est pure, et lui dire qu'il est très puissant et qu'ensemble ils vont apporter la paix. Voilà, il veut profiter de l'enthousiasme de l'élection chez Macron pour changer la donne. Mais à mon avis, la diplomatie française est quand même un peu plus expérimentée que ça.
Marie Mindras, c'est étonnant de voir comment finalement Poutine a été surpris de la victoire d'Emmanuel Macron. S'il avait suivi l'actualité, on a tous été surpris, mais les instituts de sondage annonçaient en réalité cette victoire. Donc s'il avait regardé l'information, les instituts de sondage, ce que donnait tout cela, il aurait pu s'en rendre compte. Or, il n'a pas vu le truc venir, si je puis dire. Et c'est un peu ce que vous expliquez dans un article apparaître dans la revue Esprit, c'est que en réalité, c'est aussi le signe que d'une certaine manière, Poutine est pris par son propre jeu, celui de la désinformation en réalité.
Tout à fait. C'est-à-dire que à force de vouloir désinformer tout le monde, sa propre population, les gouvernements étrangers, le chef tyrannique se désinforme lui-même. Il n'y a plus personne autour de Poutine qui ose lui dire quoi que ce soit qui lui déplaise. Donc, quand il vient en France lundi, je pense qu'il est très mal informé sur l'état d'esprit d'Emmanuel Macron, des ministres autour de lui, des conseillers et des experts, et qu'il va être surpris, comme il a été surpris à sa première rencontre avec François Hollande en début juin de 2012, c'est ça, 1er juin 2012, où Poutine vient en se disant « je vais faire qu'une bouchée de François Hollande ». Hollande venait de se faire élire et Poutine venait de se faire élire, entre guillemets, aussi de son côté. Et Hollande l'a reçu en lui disant « moi je veux bien vous parler, mais si on parle de la Syrie ». Évidemment, Poutine l'a très très mal pris et la conférence de presse a été très tendue. Donc là, Poutine arrive en espérant que son pouvoir de séduction ou de conviction soit plus fort que tout le contexte qui lui est extrêmement défavorable. Et de son côté, le président français espère user de son pouvoir de séduction pour opérer un petit mouvement du côté du Kremlin.
Donc il y a un désir de séduction mutuelle en réalité.
Absolument.
Christophe Ayad.
Oui, tout à fait. Enfin, moi, j'abonde dans le sens de ce qui a été dit. Je pense que Poutine a besoin de sortir d'un isolement. Après, il y a un vrai problème chez lui. C'est qu'il y a une auto-intoxication à sa vision de l'Europe. Mmh. Et notamment, je pense, de ses chancelleries. On lui renvoie exactement ce qu'il a envie d'entendre. Et il a une vision très noire, très sombre de l'Europe. Il ne comprend pas comment, après cette crise des migrants, cette crise syrienne, ces attentats terroristes, etc., des Européens ont pu encore, ont pu ne pas élire un populiste. La deuxième chose, c'est que je pense que Poutine surinvestit la relation personnelle et que ça a marché avec des quelques dirigeants qui eux-mêmes avaient cette vision des choses. Je pense notamment à Nicolas Sarkozy, qui avait dit « je lui serrais même pas la main », et puis en fait il s'est retrouvé tout tremblant, et un peu, voire quasiment tremblant d'amour face à Poutine. Je pense que Poutine est en train de découvrir que les démocraties occidentales ont des structures d'État beaucoup plus solides que leurs dirigeants. C'est notamment le cas aux États-Unis, où certes, vous avez Donald Trump qui a toujours déclaré qu'il voulait se rapprocher, mais vous avez un pays qui résiste, quoi. Toutes les administrations résistent, ça ne marche pas. Parce que les États-Unis ont été conçus comme ça, et que les États-Unis ont une politique. Et la France, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que penser... Bon, en plus, Emmanuel Macron était très proche de Hollande, il a vu de l'intérieur... le dernier quinquennat. Donc je pense que les réserves qu'avait Hollande sur Poutine, Macron les a aussi. Et il les a d'autant plus que lui-même a été... on a tenté de déstabiliser depuis la Russie. Mais il y a un Quai d'Orsay, il y a un ministère de la Défense, il y a un conseil de défense, il y a des gens qui ont des options. Je veux dire, quand Hollande dit, après au lendemain des attentats du 13 novembre en France... je veux tisser une grande alliance contre le terrorisme. Il va à Moscou, il va à Washington. Et puis, qu'est-ce qu'on se retrouve? Qu'est-ce qui se passe? Un mois et demi, deux mois plus tard, la distance avec Moscou redevient la même. Ce moment ne dure pas plus qu'entre novembre et janvier.
Oui. Marie Lindras, et puis ensuite, je voudrais qu'on passe à la question de la lutte contre le terrorisme, justement.
On peut ajouter, par contraste, qu'en Russie, aujourd'hui, il n'y a plus aucune institution. Il n'y a même plus de gouvernement qui se réunit, sinon de manière purement formelle. Poutine ne prend plus conseil de manière institutionnalisée auprès de ses conseillers, de ses ministres, etc. Donc il est aussi très isolé chez lui. C'est-à-dire qu'on a une double isolation de Vladimir Poutine, chez lui où il devient quand même de plus en plus défiant de tout le monde et ne parle qu'à un petit groupe de personnes, mais il les voit chacun séparément. Et il est aussi, comme vous le disiez, très isolé sur la scène internationale depuis l'annexion de la Crimée et depuis qu'une quarantaine de pays ont voté et revoté des sanctions ciblées contre une partie des élites dirigeantes russes et quelques secteurs économiques. Donc je crois que Poutine, en effet, n'a pas d'autre option que de jouer de son pouvoir personnel, mais il vieillit, il s'aigrit et son pays est en déclin, donc il a beaucoup moins de munitions.
Antoine Arjakovsky, sur la question de la lutte contre le terrorisme, parce que voilà un sujet sur lequel la Russie, la France, les Occidentaux, les Européens et la Russie peuvent se retrouver, la lutte contre le terrorisme. C'est une priorité pour tous, y compris pour la Russie qui, rappelons-le, a été touchée à plusieurs reprises, et y compris dans la période récente. Il y a eu le métro de Saint-Pétersbourg, il y a eu le meurtre de l'ambassadeur russe à Ankara. On se souvient évidemment plus anciennement de toute la vague au moment de la guerre en Tchétchénie. Cette semaine, c'est la Manchester qui a été touchée. Poutine a tout de suite condamné très fermement cet acte. Il s'est dit prêt à développer peut-être cette coopération antiterroriste avec les Britanniques en particulier, mais aussi dans le cadre d'efforts internationaux. Est-ce que cette lutte antiterroriste, elle pourrait pas constituer un facteur de rapprochement avec Moscou? Ou est-ce que là aussi, vous pensez que la coopération se heurte à des divergences encore trop profondes, Antoine Arjakovsky?
Moi, je crois que c'est une vaste blague. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on dit depuis plus de 20 ans, à savoir qu'il pourra y avoir une vaste alliance entre les démocraties, et la Russie est incluse dans ces démocraties, alors qu'on sait que ça n'est pas une démocratie, malheureusement, et on se dit que on a un ennemi commun qui est l'islamisme et le terrorisme. En réalité, on voit que depuis 20 ans, cette coopération n'a rien donné et que, au contraire, le djihadisme va grandissant. Donc ça, c'est le premier point. Il faut quand même faire un bilan de la collaboration qui s'est faite entre les états-majors des pays et qui n'a conduit à rien pour le moment. Deuxièmement, on se rend compte que finalement, un des pays en Europe qui développe le plus l'islamisme, eh bien, c'est justement la Russie, avec la Tchétchénie qui a organisé la plus grande manif contre Charlie Hebdo au moment des événements de 2015. Récemment, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'Ouzbeks, de Tadjiks, de gens de l'ex-Union soviétique qui se retrouvent aujourd'hui chez Daesh et puis qui en ressortent et puis qui remontent dans le Caucase et qui sont pas contents. Alors, il y a des attentats qui touchent maintenant Saint-Pétersbourg. Donc là, je crois que... Et puis très récemment en France, on a découvert quelqu'un qui avait participé à un attentat, qui parlait le russe, qui avait séjourné en Tchétchénie, etc. Donc là, je crois qu'il faut être extrêmement maintenant... radical par rapport à cette collaboration. On l'a dit aussi à un certain moment sur la Syrie, à savoir que les puissances occidentales pourraient vaincre Daesh, et on s'est rendu compte que la Russie, lorsqu'elle a commencé à intervenir en 2015, eh bien, elle visait pas du tout Daesh, mais elle visait plutôt le régime de Bachar, les ennemis du régime de Bachar el-Assad.
Oui, bien sûr, on entend bien, sauf que le recul, il est quand même réel de Daesh en Irak et en Syrie. Alors on peut critiquer, on peut dénoncer les effets, c'est le fait etc., de la mais il est quand même réel.
Est-ce que c'est le fait de la Russie? Je crois pas. Je crois que c'est plutôt le fait de la coalition américaine qui a fait reculer Daesh. Donc là, je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience à faire en France.
Marie Mandras, oui. Sur cette question de la lutte contre le terrorisme, facteur de rapprochement ou pas, et puis ensuite Christophe Ayad. Marie Mandras.
Oui, au Kremlin, on a beaucoup surestimé les effets corrosifs des attentats terroristes sur nos gouvernements, sur nos sociétés et, plus important que tout, sur la cohésion des alliés, c'est-à-dire la cohésion des pays de l'OTAN, la cohésion des pays de l'Union européenne. On a même réussi à s'entendre avec Ankara sur la question des réfugiés. Et enfin, sur nos positions au Conseil de sécurité de l'ONU. Et il faut bien voir qu'à chaque fois, c'est un échec. Pour Moscou, quand on dit c'est une victoire pour Moscou, il bloque tout sur la Syrie, il bloque tout sur l'Ukraine. Mais non, c'est un terrible échec. Parce que Moscou se trouve seul au Conseil de sécurité de l'ONU et seul également, très isolé à l'Assemblée générale des Nations unies, sauf pour...
La Chine l'a suivi quand même régulièrement.
Non, elle s'est souvent abstenue et n'a pas voté avec Moscou. Oui. Et on retrouve, par exemple, dans le cas de l'agression de l'Ukraine en 2014, qui votaient du côté de Moscou, c'était les habituels. Cuba, la Syrie, voilà, il n'y avait pas de... Donc la Russie est isolée, elle comprend maintenant qu'on a des capacités de réaction solidaire entre nous face à leurs actions en Ukraine, face également à Bachar el-Assad. Et je pense que au Kremlin, ils sont en train de chercher une autre recette. Ils sont au moment où ça bloque chez eux. Et c'est un moment absolument stratégique pour nous de négocier ce qui peut être négocié avec Moscou, mais dans une position de force.
Christophe Ayane.
Sur la lutte contre le terrorisme... Bon, il y a plusieurs niveaux. Si on parle de la coopération entre services, moi je serais, mais je pense que les services occidentaux en sont conscients, je ne donnerai pas une seule information aux services russes, puisque cette information se retrouverait sur le bureau de Bachar el-Assad. Les services russes travaillent avec les services syriens. Quand vous connaissez le côté trouble du rôle, je ne dis pas que Bachar el-Assad c'est Daesh. Il y a cette thèse, je ne la partage pas. Mais il y a eu des agents syrien à l'intérieur de Daesh. Il y en a toujours, d'ailleurs. Donc, c'est pas forcément la meilleure idée.
Non, surtout que maintenant, il y a des nouveaux tuyaux qui sont organisés, voilà. Qui passent par Washington, et du coup, c'est extrêmement
trouble. Voilà, avec les fuites,
absolument,
etc. Tout est totalement trouble. Ouais, tout le monde est déstabilisé en ce moment, notamment par les Américains.
Mais sur le conflit syrien, Christophe,
il y a... Sur le conflit syrien, vous arrivez... Bon, voilà, il y a eu la grande victoire d'Alep. Le problème, c'est après. Et c'est toujours la même chose. Le problème, c'est après. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, j'observe que Bachar el-Assad n'est toujours pas allé à Alep. Donc ça veut dire que les Russes ne l'ont pas invité à venir dans cette ville. Donc ça veut dire qu'il y a un problème, quand même. Les Russes considèrent que c'est eux qui gèrent Alep parce que Bachar est une catastrophe.
Mmh. Mais pour en revenir sur la diplomatie française et cette relation franco-russe, est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron pourrait modifier d'une certaine manière cette diplomatie française à l'égard de ce conflit syrien? On a vu un François Hollande extrêmement clair sur ses positions, constant, alors on peut critiquer, mais à propos notamment du rôle de Bachar al-Assad dans une éventuelle transition politique, il l'a toujours refusé. D'autres ont modifié un peu leur position, y compris d'ailleurs les Américains, même du temps d'Obama, c'était plus un préalable aux négociations. Est-ce que vous pensez que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron pourrait apporter quelque chose de nouveau?
Mais peut-être que symboliquement, il peut dire que Bachar partira à la fin de la transition et non pas au début, etc., ce qui satisferait un peu les Russes. Mais même les Russes savent que Bachar el-Assad n'est pas une solution. Il ne peut pas tenir son pays. Il est un repoussoir total pour la communauté internationale. Lorsqu'il va falloir envoyer ne serait-ce que de l'argent et des troupes pour reconstruire la Syrie, si un jour quelqu'un a l'intention de reconstruire la Syrie, parce que c'est plus un pays la Syrie aujourd'hui, eh bien ça ne peut pas se faire avec Bachar el-Assad, parce qu'il a trop tué, parce qu'il est un repoussoir. On va pas financer la reconstruction de la Syrie de Bachar. L'Europe ne peut pas faire ça. Donc les Russes cherchent à sortir de ça. Alors essayer de convaincre une énième fois la France que Bachar el-Assad est une solution. Les Russes disent on n'est pas mariés avec lui, etc. C'est le peuple syrien. Mais enfin, ils savent bien qu'il va falloir trouver une autre solution.
Et ce n'est pas Emmanuel Macron qui la détient.
Non. Et le problème des Russes aujourd'hui, c'est comment partir de Syrie proprement.
Antonin Arshakovsky, et puis ensuite Marie-Marie.
Oui, moi je voudrais répondre à votre question sur les nouvelles cartes que pourrait poser sur la table le président Macron par rapport à Poutine sur l'Ukraine. Parce que là, il faut, à mon avis, c'est parallèle. C'est-à-dire que dans les deux cas, il faut être extrêmement ferme vis-à-vis de Vladimir Poutine. Poutine ne cède que face à la fermeté, pas du tout face au dialogue. C'est vraiment l'expérience de ces 15 dernières années. Donc ça, c'est le premier point, c'est de dire, voilà, il y a eu des sanctions qui ont été prononcées, qui sont liées au fait que, le mémorandum de Budapest qui a été signé, y compris par la France, hein, pas uniquement, comme on le dit souvent, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie, mais aussi par la France et la Chine, qui garantissaient à l'Ukraine son intégrité territoriale en contrepartie de sa dénucléarisation, la France est garante de ça. Donc, la Russie l'a violée, il y a des sanctions, et tant que la Russie ne fera pas marche arrière, ces sanctions devront rester, voire augmenter. Donc ça, c'est le premier point, la fermeté. Deuxième point, prendre conscience du fait que Minsk, les accords de Minsk ne fonctionnent pas, c'est-à-dire qu'ils ont gelé le conflit, mais que tant que les chars russes, et on sait que ce sont des chars russes qui se trouvent dans le Donbass, sont présents, eh bien on ne peut pas, de la part du gouvernement ukrainien, organiser des élections libres. Donc, puisque Minsk ne fonctionne pas, il faut trouver d'autres moyens de pression sur la Russie. Et moi, personnellement, j'ai le sentiment que il y a premièrement un moyen fort qui est le gel des moyens russes à l'étranger. On l'a vu sur le dossier de ce grand oligarque russe qui s'est fait qui a gagné le procès au tribunal de commerce
les Yukos.
Yukos, voilà. Donc là ils ont été tenus sur ce point, mais on pourrait faire la même chose par rapport aux chaînes de propagande russes. Russia Today qui veut ouvrir en France une télévision. Donc là, il y a un moyen de dire non, la propagande, ça ne fonctionne pas. L'Union européenne, le Parlement européen a condamné la propagande, l'infiltration de la Russie, non seulement dans les think tanks, mais dans les médias en Europe. Donc interdire ça de façon très ferme, et puis ouvrir quand même, parce que le président Macron, comme vous le savez, a aidé Paul Ricoeur dans son travail La mémoire, l'histoire et l'oubli. Il est conscient que il faut faire attention aux affaires mémorielles et historiques. Le rappel de Pierre Legrand, c'est évidemment une manipulation de l'histoire. Alors qu'en France, on sait très bien que Pierre Legrand, il a mis sa femme en prison, il a torturé son fils qui en est mort. Enfin, donc il faut vraiment travailler l'histoire. Et je crois que c'est en travaillant l'histoire qu'on arrivera à libérer l'histoire. Et donc créer une commission mixte de dialogue entre historiens, européens, russes et ukrainiens. Et je pense que ça serait très utile.
On sent évidemment l'historien qui parle. Marie Mandras, effectivement, peut-être sur le cas de l'Ukraine, le cas de la Crimée, effectivement, malgré les accords de Minsk, on voit que la situation en réalité en Ukraine n'est pas stabilisée. On est dans une forme de conflit gelé qui régulièrement se réveille. Est-ce que vous pensez qu'un retour à la paix est possible, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que l'objectif de maintien de statu quo de Poutine rend totalement impossible la perspective d'une quelconque résolution?
D'abord, l'est de l'Ukraine, le Donbass, n'est pas un conflit gelé, c'est un conflit chaud. Il y a des batailles régulièrement, il y a des semaines qui sont un petit peu plus tranquilles que les autres, et surtout, comme l'a dit tout de suite Antoine Arjakovski, le Kremlin continue à nier la présence de matériel russe et de militaires russes sur le terrain, alors qu'ils y sont depuis maintenant.
Il a dit plusieurs fois qu'il y avait des soldats russes dans l'est de l'Ukraine. Poutine, il l'avoue.
Mais officiellement, à Minsk, la position russe, donc dans les processus de Minsk, les réunions qui se tiennent, c'est écoutez, le problème est à Kiev, il n'est pas chez nous, les séparatistes du Donbass, ce n'est pas nous, alors que ce sont eux, une partie des chefs séparatistes sont eux-mêmes russes. Donc le processus de Minsk, il avait été conçu pour éviter que le conflit ne prenne une dimension telle qu'ensuite on ne puisse, nous, pays européens, avoir le moyen de stopper. C'est-à-dire qu'on était là, en fait, à contenir la Russie dans l'est de l'Ukraine. Poutine a dit plusieurs fois qu'il ne ferait aucune concession sur Minsk, qu'il ne retirerait pas des armements puisque ce n'était pas ses armements. Moi, il me semble.
Donc rien ne sert de faire un pas en avant. Par exemple, l'idée de lever les sanctions économiques, en tout cas,
bien sûr que non,
d'y être favorable,
sérieusement,
par Emmanuel Macron, c'est pas une bonne idée.
Les seuls qui en ont parlé, c'était vraiment François Fillon et Marine Le Pen, peut-être un petit peu Mélenchon aussi. Moi, ce que je voudrais dire, vous demandiez au fond, qu'est-ce que le président Macron peut faire? Et je crois que si il veut apporter une impulsion nouvelle dans la forme du début de dialogue avec Moscou, c'est de parler de la France comme un pays européen. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit toujours. La France n'aura une politique étrangère valable et efficace que si c'est une politique européenne, atlantique. Et on voit bien que ce qui a fait reculer Vladimir Poutine, c'est la solidarité des pays occidentaux. Donc la seule ligne, c'est de maintenir cette solidarité.
Finalement, Christophe Hayad, Vladimir Poutine pourrait se retrouver co-bâtisseur de l'Europe, co-bâtisseur en particulier de la défense européenne, un peu malgré lui, bien sûr. Christophe Hayad.
Oui, Vladimir Poutine a favorisé l'émergence, peut-être, d'une, tout comme d'ailleurs Donald Trump. Mais le problème de Poutine, c'est que il y a un axe franco-allemand qui est encore plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 2 mois. Or, c'est le cauchemar russe. C'est pas seulement le cauchemar de Poutine, ça. C'est le cauchemar russe. C'est-à-dire, normalement, traditionnellement, la France est l'allié de la Russie pour prendre en sandwich ce géant menaçant qu'est l'Allemagne. C'est leur vision. Tant que Poutine ou la Russie ne comprendra pas que l'alliance franco-allemande n'est pas un axe menaçant, mais plutôt une puissance pacifique, qui veut développer le commerce et les échanges, il n'y a pas de raison de changer. Or, il y a toutes les chances de penser que Angela Merkel sera réélue et continuera sur la même ligne à partir du mois de septembre.
Oui, parce que l'effet Schulz est en train de faire pchit.
Donc après, Merkel est consciente aussi que, certes, les sanctions, il ne faut pas les enlever, mais qu'on ne peut pas en rester là. Peut-être qu'il y aura une initiative, une fois que l'Europe se remettra en marche, de l'Europe vis-à-vis de Poutine, non pas dans le fait de lever les sanctions, mais de lui proposer un partenariat qui impliquerait la levée des sanctions. Mais ce partenariat impliquerait aussi que la Russie, effectivement, cesse ses ingérences en Ukraine, soit un peu plus coopérative en Syrie, même si je pense que la Syrie, c'est d'une certaine manière, tout le monde est content que la Russie y soit, puisque personne ne veut s'en occuper. Et que la Russie est devenue le seul rempart désormais en Syrie, paradoxalement, contre l'Iran.
Antoine Arjakovsky, oui, peut-être un dernier mot sur ce que dit effectivement Christophe Ayad sur cette relation franco-allemande qui finalement serait le principal problème de Poutine.
Absolument, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a quelque chose que Poutine ne voit pas. Et ce qu'il ne voit pas, c'est que en 1945, et la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, est très importante. C'est d'ailleurs le principal ciment du peuple russe aujourd'hui. On a gagné. Voilà. Mais il y a quelque chose qu'il ne voit pas, c'est que après 1945, il y a eu deux réponses à cette crise de la modernité qui a été le nationalisme des États-nations qui se sont constitués à la période moderne. Il y a eu la réponse européenne, comme le dit Marie, qui consiste à dire, eh bien, que on va plus repartir sur les relations internationales en partant du traité de Westphalie avec les droits des États-nations, etc. On va faire un partage de la souveraineté par un processus de subsidiarité, de partage de souveraineté. Voilà, c'est comme ça que s'est créée l'Union européenne. C'est une logique complètement différente de ce que veut faire Poutine, qui a fait exactement le même constat de la fin des États-nations. Lui, sa réponse, eh bien, il faut revenir en arrière à la grande époque impériale. À la grande époque des tsars. Et Pierre le Grand, c'est celui qui de tsar est devenu empereur. Donc c'est ça son projet.
Et c'est la raison de l'annexion de la Crimée.
Et c'est la raison de l'annexion de la Crimée, c'est la raison de sa volonté de relancer l'empire eurasiatique. Et donc c'est ça qu'il faut en fait faire comprendre à Poutine, c'est que ça ne marche pas.
Marie Mindras, le mot de la fin, on arrive au terme de cette émission.
L'essentiel, c'est de faire la différence entre Vladimir Poutine et la Russie. Moi, je dis toujours le Kremlin, Vladimir Poutine, les autorités russes. Jamais la Russie. Il faudrait une autre émission pour expliquer que la majorité russe ne soutienne absolument pas le soutien à Bachar el-Assad en Syrie, ni même l'occupation du Donbass. C'est-à-dire que dès qu'ils ont l'information sur ce qui se passe vraiment dans l'est du Donbass, ils ne le soutiennent pas. Que donc Poutine est un homme de plus en plus assiégé chez lui, qui se lance aussi dans des conflits extérieurs parce qu'il... Il a peur, au fond, de ne pas pouvoir gérer la situation intérieure et que nous devons, je pense, en tant à la fois qu'experts et en tant que gouvernement français et européen, bien sûr continuer à essayer de parler avec le Kremlin, mais aussi parler de plus en plus avec les élites alternatives qui, un jour, succéderont au régime actuel.
Donc si je comprends bien, il faudra refaire une émission sur la question de la gestion et de la diffusion de l'information en Russie. Merci beaucoup à tous, Christophe Ayad, bien sûr, du Monde, notre partenaire le vendredi, Marie Mindras, dont je rappellerai, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, vous êtes membre de la revue Esprit, je rappellerai le rapport Nemtsov, Poutine et la guerre, dont vous avez préfacé la traduction qui vient de paraître chez Actes Sud, Antoine Arjakovsky, merci également infiniment, Occident, Russie, comment sortir du conflit, point d'interrogation, ça vient de paraître chez Ballant. Merci beaucoup à tous les trois. I see you. Tout de suite, 11h presque 53 minutes, l'heure de retrouver Brice Couturier et le Monde des Idées.
Le tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors toute cette semaine, vous nous avez présenté Les Allemands, cet ultime essai de Norbert Elias qui paraît ces jours-ci chez Gallimard. Aujourd'hui, vous nous arrivez avec un texte court, réédité récemment par les éditions de l'EHESS, qu'il présente comme un texte maudit. De quoi s'agit-il ?
Eh oui, après le tout dernier ouvrage publié par Norbert Elias, l'un des tout derniers publiés par notre Émile Durkheim à nous. Le sujet est le même. De quelle pathologie, au juste, a souffert la culture allemande ? À quelle époque cette nation a-t-elle emprunté le mauvais chemin, celui qui l'a menée, malgré ses succès culturels et économiques, aux catastrophes du XXe siècle ? Alors Durkheim, mort en 1917, ne pouvait évidemment pas imaginer l'hitlérisme, mais on peut dire qu'il l'anticipait. Dans « L'Allemagne au-dessus de tout », publié en pleine guerre, le père de la sociologie française présente cette nation comme « inaccomplie ». À l'époque, de nombreux auteurs français voyaient dans le caractère tardif de l'unification nationale allemande l'origine d'une espèce de retard allemand. Pour Durkheim, il s'agirait plutôt d'un véritable déraillement sur le chemin de la modernité. Celui-ci tiendrait à une absolutisation de l'État, conçue comme volonté souveraine, pure affirmation de volonté ne reconnaissant aucune contrainte d'ordre juridique. Chez un historien nationaliste allemand comme Treitschke, cible privilégiée de Durkheim, l'État apparaît comme une force impersonnelle placée au-dessus de tout, Über alles. Au-dessus de moi, je ne reconnais personne sauf Dieu et l'épée du vainqueur, disait Gustave Adolphe de Suède, cité souvent par Trulsch, au-dessus en particulier de sa propre société. L'État prussien, depuis ses origines, est un État militarisé. Ayant réalisé l'unité de l'Allemagne, cet État prussien a imposé son idéologie à la nation tout entière. La guerre apparaît dans ces conditions comme inévitable. En outre, elle est considérée comme morale et sainte dans la mesure où elle oblige les hommes à maîtriser leur égoïsme naturel. La cause de ce phénomène pathologique selon Durkheim ? L'Allemagne n'aurait pas su se penser en tant que société moderne. Alors bien sûr, ce texte de Durkheim est un pamphlet, écrit pour participer par la plume à l'effort de guerre. Il paraît d'ailleurs dans une collection créée par de grands intellectuels français, comme le philosophe Bergson et l'historien Seignobos, pour mobiliser les intellectuels contre l'Allemagne. C'est l'époque du bourrage de crâne. Mais il soulève un certain nombre de questions qu'on trouvera traitées de manière moins polémique dans le grand livre de Louis Dumont, « L'idéologie allemande ».
Rappelez-nous les grandes lignes de ce livre, paru en 1991, mais qui reste un classique des réflexions sur la culture allemande.
Oui, Dumont adopte une démarche comparatiste pour interroger les cultures allemandes et françaises, respectivement. Les différences tiennent à la manière dont chacune d'entre elles a réagi face à la modernité et donc à l'individualisme. L'idéologie allemande, relève Dumont, fait coexister un thème prémoderne, l'adhésion à la communauté organique, la fameuse Gemeinschaft, avec l'individualisme spirituel hérité du piétisme. Ainsi, le sociologue Troeltsch, l'année où Durkheim publie « L'Allemagne au-dessus de tout », oppose à la liberté des Français une liberté allemande. Et il définit celle-ci comme « adhésion spontanée de l'individu au tout social, doublée d'un fort sentiment d'indépendance personnelle intérieure ». La première est héritée du sentiment religieux du devoir, le second serait un écho de l'Antiquité. On sait combien la culture allemande s'est voulue longtemps l'héritière de la Grèce antique, mais elle est surtout d'origine luthérienne. Dumont oppose ainsi l'individualisme de la différence issu du piétisme, qui serait caractéristique de la pensée allemande, à l'individualisme de l'égalité issu de l'expérience française de la Révolution de 89. Face aux défis que lui a lancé la modernité, chaque culture européenne a réagi en créant un alliage qui lui était propre, dit Dumont. Et la culture allemande a vécu de manière si intense le conflit entre son holisme prémoderne et l'individualisme de la modernité qu'elle a voulu voir dans la contradiction, la caractéristique même du réel, voire Hegel. Au cœur de cet individualisme, pour Dumont, il y a le concept de la fameuse Bildung, la formation, le perfectionnement de soi dans l'interaction avec le milieu. Il s'agit, dit encore Dumont, de faire de soi-même et de sa vie une totalité harmonieuse, elle-même censée refléter la totalité sociale. Et le grand roman de la Bildung, c'est bien sûr les années d'apprentissage de Wilhelm Meister de Goethe. On y voit le héros renoncer, après une vie d'errance, à un idéal vide et imprécis pour se réconcilier avec la société. La rébellion adolescente est suivie d'une adaptation réaliste au rôle social qu'il faut bien jouer. Enfin, Dumont montre combien les Français ont entretenu un rapport naïf à leur propre culture, qu'ils ont identifié à la culture universelle, illusion dans laquelle les Allemands ne risquaient pas de tomber, eux qui célébraient depuis Herder la valeur de chaque culture dans sa singularité profonde. Le paradoxe, c'est que l'idéologie française, toute universaliste qu'elle ait été et qu'elle demeure pour partie, a pu penser de manière précoce la nation avec sa singularité et ses limites, tandis que l'idéologie allemande demeurait bloquée par l'expérience de son Saint-Empire dans l'horizon politique du pan-germanisme et du Reich sans limites géographiques précises.
Merci beaucoup Brice Couturier. Donc je rappellerai l'idéologie allemande de Louis Dumont, mais aussi chez Gallimard, Les Allemands de Norbert Elias, qui vient de paraître et dont vous nous avez parlé toute cette semaine. On peut retrouver toutes les chroniques sur le site de France Culture. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.